Seigneur, merci pour ta parole. Merci puisque encore aujourd'hui, tu nous adresses la parole. Nous, on ne peut rien savoir sur toi que tu ne nous révèles. Et tu as choisi de t'ouvrir à nous, de nous dire qui tu es, ce que tu as fait en ton Fils. Alors aide-nous à être à ton écoute, à comprendre ce que tu nous dis et travaille en nos cœurs pour nous transformer par ta parole. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, moi je m'appelle Joshua, je suis un des stagiaires dans l'église ici et je voudrais vous souhaiter de nouveau la bienvenue, surtout si c'est une des premières fois que vous êtes ici parmi nous. Je serais ravi de faire votre connaissance à la fin de notre rencontre. Alors pour vous aider à suivre, normalement vous avez le feuillet qu'on a pu vous donner à l'entrée. Vous avez le texte biblique de 2 Corinthiens qui est dessus. Et dans la petite feuille volante, vous avez aussi le plan de ce qu'on va voir ensemble. Et les enfants, normalement, vous avez pu récupérer la petite feuille d'activité qui va vous aider aussi à suivre ce qu'on va voir ensemble. Alors, on l'a dit, Steve, le pasteur de cette église, de notre église, il n'est pas là ce matin, il prêche dans une église sœur au centre de Bruxelles, à la rue du Moniteur. Et je vous rassure, il n'est pas du tout sur le départ, mais imaginez quand même un instant qu'on soit à la recherche d'un nouveau pasteur. Ce sera plus facile sans le bourdonnement.
C'est mieux comme ça ?
Voilà. Imaginez qu'on soit donc à la recherche d'un nouveau pasteur. Question hypothétique. On a deux dossiers devant nous. Premier candidat, orateur brillant, inspirant, connu, respecté par les autorités locales. Et en plus de ça, il le précise lui-même dans sa lettre de motivation, Dieu lui donne régulièrement des visions concernant l'avenir de l'évangile en Belgique. Deuxième candidat, physique éprouvé, orateur assez approximatif, avec peut-être en plus un petit accent anglais, également connu des autorités locales, mais davantage du côté du commissariat. Et ça s'aggrave encore, puisque par le passé, alors qu'il n'était pas pasteur de cette église, il n'habitait même pas en Belgique en fait, il écrit des lettres à notre église pour nous dire toutes les choses qu'on fait mal. Pour qui il se prend ? Ah, franchement, lequel de ces deux candidats est-ce qu'on prend ? Est-ce qu'on appelle ? Alors peut-être que vous avez déjà la bonne réponse, vous avez compris que le deuxième candidat, en fait, c'est l'apôtre Paul, tel qu'il s'est décrit dans les passages qui précèdent ce qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens. Y compris d'ailleurs ses arrestations. Mais si on est honnête, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, je pense qu'on tendrait quand même vers le premier. Ça a l'air moins compliqué, plus inspirant. Et ça, justement, c'était le problème de l'église de Corinthe dont on parle. Et peut-être, je vous laisse y réfléchir, c'est un problème qu'on peut encore vivre aujourd'hui. Justement, cet été, on explore ensemble la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Une épître, ça veut simplement dire une lettre, et ici, une des nombreuses lettres que Paul a écrites à cette église de Corinthe en Grèce. C'est une église qu'il connaît bien, pour qui il a beaucoup d'affection, mais qui a aussi beaucoup de problèmes. Et on a vu ensemble que Paul cherche à les convaincre que la vraie vie chrétienne, le vrai service chrétien, c'est pas ce qui est impressionnant pour les hommes, mais en fait c'est tout l'inverse. Ça ressemble plutôt à Jésus, qui a vécu dans la pauvreté, qui a souffert, qui est mort sur une croix romaine. Ça, c'est ce que Paul veut dire. Mais face à Paul, dans l'église de Corinthe, il y a ceux qu'il appelle les super-apôtres. Ces enseignants qui sont arrivés à Corinthe et qui ont convaincu l'église que le vrai ministère chrétien, c'est plutôt impressionnant, c'est même grandiose. C'est ceux que je vais appeler les prédicateurs prétentieux. Et donc la question que Paul soulève tout au long de l'épître, c'est de savoir à quoi ressemble une authentique vie chrétienne. À quoi ressemble un authentique ministère chrétien ? À quoi ressemble en fait une authentique église chrétienne ? Pour les super-apôtres, on l'a dit, le ministère chrétien, c'est impressionnant, c'est grandiose, et eux, ils vont se mettre en avant de cette manière-là. Mais Paul, lui, il veut rappeler à Corinthe, il veut nous rappeler que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, qui est mort crucifié. Ça, c'était pas impressionnant et c'était pas grandiose. Et donc, la vie chrétienne authentique, le ministère chrétien authentique, c'est pas impressionnant, c'est pas grandiose, c'est pas spécialement glorieux, c'est plutôt faible et fragile. Au passage, quand je parle de ministère ici, je ne parle pas seulement de ceux qui sont devant le dimanche matin, de ceux qui sont stagiaires dans l'église, de ceux qui animent des études bibliques le jeudi soir. Ça concerne en fait tous les chrétiens. Tout disciple de Jésus, toute personne qui suit Jésus est engagée dans ce qu'on appelle un ministère. Ministère, c'est simplement un mot qui veut dire service. On est engagé ensemble dans le service de l'évangile au sein de l'église. On cherche tous à s'encourager, s'édifier, se pousser les uns les autres vers l'avant, au moyen de la parole de Dieu. Ça nous concerne tous, ce que Paul dit ici. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est que tout le message de ce passage, tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que Dieu affaiblit les serviteurs de l'Évangile pour leur apprendre l'humilité et démontrer sa puissance. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ben, nous, on doit apprendre donc que Dieu ordonne nos faiblesses, nos souffrances, pour faire avancer son règne en nous et dans le monde. Dieu ordonne nos faiblesses, nos souffrances pour faire avancer son règne dans nos vies et dans le monde. Et donc, en conséquence, on doit apprendre pas à fuir la souffrance, pas à être découragé dans la souffrance, mais dépendre de la grâce de Dieu dans la souffrance. Alors, vous allez voir sur le feuillet comment est-ce qu'on va procéder. Vous avez le plan ici. D'abord, il y a deux questions préliminaires. L'écharpe dans la chair dont parle Paul, qu'est-ce que c'est ? D'où est-ce que ça vient ? Et ensuite, deux choses que Paul veut qu'on retienne. Premièrement, par la faiblesse humaine, Dieu nous apprend l'humilité. Deuxièmement, dans la faiblesse humaine, Dieu manifeste sa puissance. D'ailleurs, en bas du feuillet, vous verrez qu'il y a une petite question. On peut prendre l'occasion du temps qu'on a à la fin de notre rencontre pour continuer de parler, de réfléchir, d'échanger autour du texte biblique. Pourquoi pas d'échanger à deux, à trois autour de cette question qui est sur la feuille. Donc, on s'attaque à notre texte. Si vous avez devant vous la feuille ou simplement une Bible ouverte, ça va vous aider à suivre. Aussi vous aider à juger si ce que je dis, c'est bien ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, le verset 1 nous dit qu'on est en fait encore dans cette partie de l'épître, de la lettre, qu'on appelle parfois le discours du fou. Les Corinthiens, ils étaient tellement émerveillés par les super apôtres, par leurs grandes affirmations, par leur manière de se mettre en avant eux-mêmes, que Paul, il a décidé, en fait au début du chapitre 11, donc un peu avant, d'adopter un petit peu leur tactique. Lui-même, il va se vanter aussi, il va se mettre en avant, il va se glorifier. Mais en fait, il le fait de manière super ironique. Si on rate l'ironie dans ces versets, on ne va pas trop comprendre. Mais regardez, Paul, il se vante, mais verset 1, il dit d'abord, ça ne sert à rien. Je me vante, mais... Puis il se vante, mais dans les premiers versets, il parle de lui à la troisième personne. Il se vante, mais en fait, il ne veut même pas trop se mettre en avant. Ensuite, il se vante, on va le voir, d'avoir eu la révélation la plus extraordinaire qu'aucun homme ait jamais eue. Mais, grande ironie, il ne va rien nous dire sur le contenu. Et enfin, plus grande ironie du texte, où est-ce qu'il va en arriver ? C'est quoi la chose dans laquelle il se vante le plus ? Ce n'est pas ses révélations, ce n'est pas ses talents, c'est ses souffrances. Vous voyez un peu ce que fait Paul ? Il joue le jeu des super-apôtres, mais en fait, il le fait ironiquement, il renverse tout. Et donc, on va revenir dans un instant sur la première moitié du texte, mais on va d'abord jeter un coup d'œil à la deuxième moitié du verset 7, qui est peut-être un petit peu le verset central. Voici. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un messager de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » C'est quoi cette histoire d'écharpe ? C'est au cœur de notre texte, mais ce n'est pas forcément très clair ce que Paul dit par là. Sur le feuillet, j'ai mis deux questions pour nous aider. Premièrement, l'écharpe, qu'est-ce que c'est ? Ben, pour faire court, je ne sais pas. La raison, c'est que Paul ne nous dit pas ce que c'est. Il y a toutes sortes d'études qui cherchent à savoir ce que pouvait être cette écharpe, cette souffrance qu'évoque Paul. Peut-être une souffrance physique, psychique, spirituelle. Mais en fait, je pense que c'est une bonne chose que Paul ne nous dit pas plus que ça. Parce que si Paul nous avait dit exactement ce que c'était, on passerait 30 minutes à réfléchir à un problème particulier. Mais en étant plus général, plus large, Paul nous donne ici un passage qui s'applique à toute la gamme des souffrances humaines. Il nous donne quand même quelques précisions, pas sur ce que c'est, mais sur ce que ça implique. D'abord, ça lui faisait très mal. Verset 7, c'est un messager de Satan qui est là pour le frapper. Frapper ici, c'est un mot qui sert à décrire une agression physique. C'est douloureux. Et ce n'est pas non plus une souffrance passagère. Regardez le verset 8. Paul, il a déjà demandé 3 fois à Dieu de lui retirer cette écharpe. Ça a duré 14 ans, 3 prières, peut-être qu'on doit comprendre par là 3 saisons de prières. Ce n'est pas une souffrance passagère. Et aujourd'hui aussi, les serviteurs de l'Évangile, ceux qui, comme Paul, sont impliqués dans le ministère de l'Évangile, en fait, tout chrétien, vivent souvent ce genre d'expérience. C'est le cas pour de nombreuses personnes ici. Pour certains, j'ai une petite idée de ce que vous traversez. Pour d'autres, peut-être que vous seul savez ce que vous vivez. Une souffrance physique, comme un handicap, une maladie longue durée, un travail qu'on n'arrive pas à trouver, une séparation difficile, une relation compliquée avec vos enfants, le désir de trouver un conjoint, d'avoir des enfants. Peut-être une souffrance qu'on voit moins facilement de l'extérieur. L'anxiété, la dépression. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'écharde dans votre chair, si je peux le dire comme ça, l'expérience que Paul décrit dans ce texte va nous aider, va vous aider à recalibrer la manière d'y penser, recalibrer la manière de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Deuxième question, cette écharde, d'où est-ce qu'elle vient ? Verset 7, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un messager de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Cette écharde, d'après Paul, c'est un messager de Satan, un messager de la part du diable, l'ennemi des croyants. Mais juste avant, qu'est-ce qu'il dit ? Il m'a été mis une écharde. Ça, c'est ce qu'on appelle parfois un passif divin, un verbe qui est au passif, mais qui sert à dire qu'en fait, c'est Dieu qui a mis cette écharde. Vous voyez ces deux perspectives que Paul a en même temps ? D'un côté, c'est Dieu qui l'a donné, on va le voir avec une bonne intention, et en même temps, c'est un outil entre les mains du diable pour faire souffrir Paul. Les deux sont là, dans le verset 7. C'est important, puisque cette écharde, ce n'est pas une bonne chose, c'est quelque chose de mauvais, c'est une souffrance. Et visiblement, Paul, il n'aimait pas ça, il le détestait. Paul, ce n'était pas un masochiste. Il ne se réjouissait pas quand lui ou ses amis étaient malades, il ne se frottait pas les mains de joie. Il savait que la souffrance, la maladie, la mort, c'est des intrus dans le monde, des intrus dans la création que Dieu a créée. Très bonne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Paul, trois fois, il a prié que Dieu retire cette souffrance, cette écharde de sa vie. Mais en même temps, sachant ça, Paul pouvait voir que derrière tout ça se tient son Père souverain, qui règne dans les cieux, qui se tient de manière mystérieuse, certes, mais qui est bien là, derrière cette écharde. Et plus que ça, que Dieu a donné cette écharde avec une intention bonne. Alors, c'est quoi cette bonne intention ? Premièrement, par la faiblesse humaine, Dieu nous apprend l'humilité. Donc, on revient maintenant à la première moitié du passage qu'on avait laissé de côté. Et il semblerait que les super-apôtres, ces adversaires de Paul à Corinthe, ils se vantaient dans leur prédication de leur rencontre surnaturelle avec Dieu, ou qu'ils prétendaient faire avec Dieu. Peut-être qu'ils disaient que Jésus leur révélait des choses secrètes, histoire de se montrer un peu plus grand, un peu plus impressionnant, et au passage de faire passer Paul pour un minable. Laissez-moi vous dire la vision que Dieu m'a donnée cette nuit. D'ailleurs, vous avez remarqué que Paul, il ne fait jamais des rêves comme ça. Comment est-ce que Paul répond ? Au début, on a l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre, vous avez vu ? Il parle à la troisième personne. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on comprend qu'il parle en réalité de lui-même. Et il choisit de parler à la troisième personne pour se distancer un peu avec cette expérience, en fait, histoire de ne pas vraiment se vanter. Lui, contrairement au super-apôtre, il ne veut pas se mettre en avant. Et donc, il évoque une expérience de communion avec Dieu, on pourrait dire, qu'il a faite 14 ans plus tôt. Et même 14 ans plus tard, ce n'est pas toujours très clair pour lui. Est-ce que c'était dans son corps ou hors de son corps ? Il ne sait pas. Il y a même des choses que Dieu lui a interdit de répéter. Mais ce dont il est sûr, c'est qu'il a été enlevé jusqu'au troisième ciel, verset 2, ou au paradis, verset 4. Les Juifs, à l'époque, pensaient qu'il y avait des niveaux dans le paradis, entre 2 et 10 niveaux. 3, c'était un nombre assez populaire. Et Paul, il adopte cette idée, au moins métaphoriquement, pour dire que j'ai été enlevé jusque dans les cieux des cieux, dans la présence de Dieu lui-même, devant le trône du Père. Sans doute qu'il a vu Jésus-Christ qui règne à la droite du Père. Et on aurait beaucoup de questions à lui poser si on pouvait le faire. Paul, est-ce que tu as revu des croyants morts pour leur foi, qui sont désormais auprès du Seigneur ? Paul, qu'est-ce que tu as entendu ? Mais même 14 ans plus tard, Paul, il le fait de manière très sobre. Il en parle de manière très sobre. Il ne veut pas être sensationnaliste. Mais il a quand même deux raisons d'évoquer un peu malgré lui cette vision. La raison principale, c'est puisque c'est cette vision qui a conduit ensuite à l'écharde dont on parle depuis tout à l'heure. Ça, on va y revenir dans un instant. Mais l'autre raison, la raison un peu secondaire, c'est que ça sert à contrer l'argument des super-apôtres, ces prédicateurs prétentieux. Eux, ils se vantent de leur vision, ils se mettent en avant, ils veulent impressionner les gens autour d'eux, les Corinthiens. Ils disent, écoutez-nous, chaque nuit, nous on reçoit des visions, des paroles de la part de Dieu. Et bah, si vous nous écoutez, on pourra vous dire ce que sont ces paroles. Et donc Paul leur répond, non, vous racontez n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi pour deux raisons. Premièrement, c'est pas vrai quand vous dites que j'ai jamais fait d'expérience spirituelle, que Dieu m'a jamais donné de vision. C'est bien arrivé. Il y a 14 ans, j'ai été emmené jusque dans les cieux des cieux, la présence de Dieu lui-même. Mais deuxièmement, vous racontez aussi n'importe quoi, puisque quand on fait ce genre d'expérience, c'est pas pour qu'on s'en vante ensuite. Verset 4, j'ai entendu des paroles incroyables, mais Dieu ne me permet pas d'en parler. C'est pour moi, c'est privé. Et ça vaut pour nous aussi, je pense. Hein. Si vous avez des expériences spirituelles fortes comme ça, c'est bien. Mais peut-être que c'est justement pour vous, pas pour qu'on en parle. Ce n'est pas ici l'objectif principal de Paul, donc je ne veux pas trop m'attarder. Mais il faut quand même qu'on s'arrête un instant, puisque ça résonne pas mal avec ce qu'on peut voir aujourd'hui dans beaucoup d'églises, non ? On scrolle un peu, c'est quoi les titres qu'on voit ? Il est ravi au ciel pendant 2 heures, son témoignage bouleversant. Plus loin. Elle voit Jésus dans sa chambre, ce qu'il lui dit va vous choquer. Plus loin. Vision prophétique pour la Belgique, le Seigneur m'a montré l'avenir. On reconnaît un peu le style, non ? Ou dans le même style, le livre chrétien qui se vend le plus aujourd'hui en francophonie s'appelle « Un moment avec Jésus ». Et dès l'introduction, l'auteur affirme que ce qu'elle écrit dans ce livre, ce sont des paroles qu'elle a reçues de la part de Jésus. Le sous-entendu, écoutez-moi, parce que j'ai eu cette expérience mystique qui me donne de l'autorité. Ce que les super-apôtres faisaient à Corinthe au temps de Paul, plein de gens le font encore aujourd'hui. Rapidement, 2 raisons pour lesquelles on devrait faire attention à ça. Premièrement, c'est la porte ouverte aux faux enseignements. La révélation que Dieu nous donne, c'est sa Bible, c'est sa parole. C'est ça qui fait autorité. Et donc, quand quelqu'un prétend avoir d'autres sources de révélation, d'autres sources d'autorité, c'est facile ensuite d'importer d'autres croyances, des fausses croyances, et de les faire passer pour la parole de Dieu. Deuxième problème, c'est la porte ouverte à l'abus spirituel. Dire « Dieu dit que », alors que Dieu n'a pas dit, puisque ce n'est pas dans sa parole, c'est inventer une autorité qu'on n'a pas, donner à ce qu'on dit l'autorité de Dieu et l'imposer aux gens en face de nous. Ça, c'est l'abus spirituel. Si quelqu'un fonde son enseignement, son ministère sur des visions, des songes, des paroles directes de la part de Dieu, on pourrait penser que c'est bon signe, c'est une recommandation de la part de Dieu. Mais Paul nous dit ici que c'est tout l'inverse. On devrait faire attention, on devrait simplement partir. Fin de la parenthèse, on revient maintenant au cœur de ce que Paul veut nous dire. Rappelez-vous, par la faiblesse humaine, Dieu nous apprend l'humilité. La raison principale pour laquelle Paul évoque l'écharde, sa souffrance, ici dans le passage, la raison principale pour laquelle il évoque l'expérience spirituelle, c'est pour parler de l'écharde, de la souffrance. Verset 7. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair. Oui, on a vu que cette écharde, cette souffrance, elle vient en quelque sorte du diable. C'est le diable, l'adversaire, qui inflige ça à Paul. Mais plus fondamentalement, c'est Dieu qui l'a donné pour le bien de Paul. Pour éviter que la grandeur de l'expérience spirituelle qu'il a faite puisse le rendre orgueilleux. Il faut qu'on s'arrête un instant là. Qu'on se demande comment on se sent face à ce genre d'affirmation. Dieu intervient délibérément dans la vie de Paul pour lui donner cette écharde, pour le faire souffrir en fait, pour pas qu'il tombe dans l'orgueil, l'arrogance, pour qu'à la place il reste un serviteur de Jésus qui est certes brisé, mais surtout fidèle. Je pense que ça devrait nous heurter un petit peu, ça devrait nous surprendre. Qu'on soit bien clair, Dieu ne déteste pas Paul, Dieu aime Paul. Il n'était pas en train de le punir, il était en train de le bénir. Mais en lui rappelant sa faiblesse, lui donne une occasion, une opportunité de grandir dans sa ressemblance à Jésus. La faiblesse et la souffrance de Paul, la faiblesse et la souffrance des serviteurs de l'Évangile, des chrétiens, sont un moyen par lequel Dieu nous apprend l'humilité. Paul, avant d'avoir cette écharde, il savait déjà qu'on doit dépendre de Dieu. Ce n'est pas une découverte théologique pour lui. Mais il y a savoir, n'est-ce pas? On peut apprendre à nager en lisant un livre dans un fauteuil, mais on apprend vraiment à nager quand on n'a plus pied. Et Dieu, dans sa bonté, il met ses serviteurs là où ils n'ont plus pied. Pas pour qu'ils se noient, mais pour qu'ils découvrent que l'eau est en train de les porter. Alors, concrètement, à quoi est-ce que ça peut ressembler, l'humilité, chez nous, cette semaine? Trois exemples rapides. La manière dont on reçoit une critique. L'humilité n'a pas besoin de se défendre, parce que ce n'est pas sa réputation qu'elle protège. Deuxièmement, la manière dont on prie. Est-ce que je demande à Dieu de bénir mes projets? Ou est-ce que je demande à Dieu de me changer, de me transformer? Et enfin, peut-être que comme Paul, on doit se rendre compte que la souffrance qu'on est en train de vivre, l'écharde qu'on a dans la chair, Dieu l'a mis là pour nous apprendre l'humilité. Mais est-ce que nous, on a l'humilité de l'accepter? Donc on a vu que Dieu se sert de la souffrance des chrétiens pour apprendre l'humilité. Mais le deuxième point qu'on a ici, la deuxième chose que Paul veut qu'on comprenne, c'est que par la faiblesse humaine, par la souffrance humaine, Dieu manifeste sa puissance. Regardez verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse humaine. Alors, deux précisions importantes ici. On ne peut pas toujours faire le lien, de manière directe en tout cas, entre une souffrance, une faiblesse et une manifestation de la puissance de Dieu. Pas puisque je me suis pris le petit orteil dans le coin du lit hier soir que ma prédication va bien se passer aujourd'hui. Mais par contre, à l'échelle d'une vie chrétienne, d'une église chrétienne, une des marques, pas la seule, mais une des marques que Dieu est en train d'agir avec puissance, c'est que c'est dur. C'est que c'est parfois un peu la misère. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, c'est que la puissance qui est accomplie, qui est manifestée, démontrée dans la faiblesse humaine, c'est pas la puissance des hommes, c'est la puissance de Dieu. Paul n'est certainement pas en train de dire ici « Je suis faible, mais en vrai ça va. Il y a d'autres qualités qui vont avec, des forces que j'ai grâce à ma souffrance. » Paul, mon ami, ta dépression, c'est pas si grave en vrai. En fait, c'est plutôt une bonne chose. Ça te permet d'avoir plus d'empathie pour d'autres personnes qui souffrent. Oui, je sais que vous voudriez vraiment avoir des enfants, mais en vrai, c'est bien que vous n'en ayez pas. Ça vous donne plus de temps pour servir l'Église. Vous voyez un peu l'idée. D'ailleurs, si vous avez lu avec nous le livre de l'été sur le livre de Job, vous reconnaissez peut-être le genre de choses que les amis de Job disent à Job, et c'est pas bon signe. Dieu dit « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Paul ne dit pas « Je suis fort puisque je suis faible », il dit plutôt « Moi, je suis juste faible, et Dieu, il est très fort ». Alors, c'est bien beau de dire tout ça, mais dans la vraie vie, c'est pas si simple. Il faut qu'on sente déjà à quel point c'est contradictoire. Ça paraît pas vraiment collé avec la réalité qu'on a en face de nous. On l'a déjà dit, on ne sait pas exactement ce que c'est cette écharde dont parle Paul, mais très probablement que Paul, il aurait été en mesure de dire à Dieu « Seigneur, si tu me retirais cette écharde, je pourrais faire plus pour toi. Mon ministère irait plus loin, je parlerais de toi à plus de personnes. » Dieu, ce que tu fais dans ma vie, ça n'a aucun sens. Et pourtant, Dieu dit, non, cette écharde, elle reste. Et puisqu'elle est là, la puissance de Dieu est manifestée. Ça paraît contradictoire. Mais pourquoi est-ce que c'est vrai que ça paraît comme ça? Pourquoi est-ce que ça marche? Puisque quand le serviteur de l'Évangile est faible, il est petit, il n'est pas impressionnant, on s'arrête de s'intéresser à lui. On n'arrête pas notre regard à Paul, on voit derrière lui Jésus-Christ. C'est comme un bon guide dans un musée. Il va pas se planter devant la toile, vous raconter sa carrière, ce qu'il a mangé à midi, vous parler de tout sauf de la toile qu'il y a derrière lui. Le meilleur guide, c'est celui dont on ne se souvient plus trop à la fin. Et ce qui nous reste, c'est ce qu'on a vu, la toile qu'il y avait derrière, dont il parlait. Et Paul, il a compris ça. La toile qu'il y a derrière, c'est la gloire, la grâce de Dieu. Et Paul, il a compris que c'est ça qui compte vraiment. Et en disant ça, en disant que la puissance de Dieu, elle est manifestée dans la faiblesse, ça nous fait penser, n'est-ce pas, à la croix. Un homme cloué sur une croix romaine, incapable de bouger, tourné en dérision, abandonné, mort. n'y a rien de moins impressionnant dans toute l'histoire du monde. Et pourtant, c'est précisément là que Dieu désarme le péché, qu'il a vaincu la mort, qu'il a réconcilié tout l'univers avec lui-même. C'est pour ça que Paul ne peut pas se glorifier du message qu'il est en train de porter. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir un ministère grandiose et impressionnant. Puisque le message qu'il a, c'est ce message de la croix. Un apôtre qui serait impressionnant, comme les super apôtres, ce n'est pas quelqu'un qui pourra réellement prêcher un sauveur mort sur une croix. Et ce message, c'est important, parce que c'est le message de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu envers des humains, des gens qui ne méritent pas ça, qui méritent le contraire. Et donc la grâce de Dieu ne peut jamais servir à mettre en avant des hommes, à mettre en avant les serviteurs de l'Évangile, puisqu'aucun d'entre nous ne mérite quoi que ce soit de la part de Dieu. La grâce de Dieu met en avant Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est tellement important que verset 9, Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit. » Alors, « suffit », ça ne veut pas dire « ça passera ric-rac ». Ça suffira tout juste. En français, ça donne un peu cette impression-là. Mais le sens du mot ici, c'est que ma grâce est toute suffisante. Elle est abondamment suffisante. Vous vous souvenez du catalogue des souffrances de Paul qu'on a vu il y a 2 semaines dans le passage précédent ? Verset 10, ici, il y a encore des souffrances qui sont énumérées. Et puis, dans sa vie, il a aussi cette écharde qui porte, cette souffrance qui l'accompagne depuis 14 ans. Mais au milieu de tout ça, la promesse de Jésus pour Paul, la promesse de Jésus pour nous aussi ce matin, c'est que même quand tu dois affronter tout ça, ma grâce te suffit. Elle est abondamment suffisante pour te fortifier, te soutenir, te faire traverser cette épreuve. C'est une assurance incroyable. Si vous êtes avec nous ce matin et que vous posez des questions sur la foi chrétienne, d'abord, on est vraiment content que vous soyez là, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous connaissez quelque chose qui permettrait, comme Paul, de traverser la souffrance avec le contentement ? Je ne parle pas d'être stoïque, de souffrir en silence, ça, ce n'est pas des vertus, et ce n'est pas ce que Paul est en train de faire ici. C'est plutôt de savoir qu'il y a quelque chose, peut-être plutôt quelqu'un de plus grand, de plus important, qui nous dépasse, qui dépasse même nos souffrances, et sur qui on peut s'appuyer même quand tout vacille. Ça, c'est la promesse de la grâce de Dieu à tous ceux qui se confient en lui. C'est la promesse de rentrer dans une histoire qui est beaucoup plus grande et plus importante que nos histoires à nous. Et ironiquement, c'est en faisant ça qu'on découvre pourquoi on est là, qu'on trouve, comme Paul, le contentement. Il y a plus important, même que la pire souffrance qu'on peut avoir. On va prendre juste un petit peu de temps maintenant pour réfléchir concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, d'abord individuellement, et puis collectivement en tant qu'Église. Ce qu'on a vu, c'est que Dieu permet, et en quelque sorte même il donne des difficultés, des échardes, comme dit Paul, pour le bien, pour que nous on soit humbles, pas orgueilleux, et aussi pour que le monde autour de nous voit la puissance de Dieu manifestée au travers de la faiblesse de ses serviteurs. Et on a vu que Paul, lui, il sait ça. Il l'a compris jusque dans le fond de son cœur. Et alors, à ce moment-là, il peut se contenter de sa situation, de sa souffrance. Vous voyez à quel point ça serait libérateur pour la vie chrétienne, pour le service chrétien aussi. Ça nous retire le besoin d'apparaître fort, intelligent, doué. C'est-à-dire que nos faiblesses, nos souffrances, nos situations de vie difficiles, tout ça, ce n'est pas une barrière pour que Dieu travaille en nous et au travers de nous. En fait, moins qu'une barrière, c'est une condition nécessaire pour que Dieu travaille en nous et par nous. Vous voyez que si on arrivait à penser comme ça, ce serait très libérateur. Mais ça me surprendrait qu'on soit tous rendus là dans notre tête. Comment est-ce qu'on passe de notre vie difficile au contentement que Paul exprime ici ? D'abord, ça peut nous aider de nous rappeler que Paul, il n'est pas passé de A à B du jour au lendemain. Ce contentement, ce n'est pas le fruit de 30 minutes de prédication. Ce qu'on a ici, dans ce texte, c'est la réflexion mûre de Paul, 14 ans plus tard, 14 ans après qu'il ait reçu cette écharpe dans la chair. Entre-temps, il a imploré Dieu de la retirer. Et c'est seulement maintenant, avec le temps, le recul, le temps passé dans la prière, qu'il écrit ce qu'il est en train d'écrire. Et peut-être que c'est surtout seulement après avoir entendu Dieu lui dire que sa grâce lui suffit et qu'il ait vraiment compris ça. Donc si on n'en est pas là, si on n'est pas là où est Paul, pas besoin de se flageller ce matin. Mais ça veut aussi dire que si on veut y arriver, bien ça se fera comme Paul, en pensant, en priant, en comptant activement sur la grâce de Jésus qui est toute suffisante. Dieu nous promet, comme à Paul, « Ma grâce te suffit ». Alors, c'est libérateur, mais deuxième chose, ça nous met aussi au défi. Si on veut avoir cette même perspective que Paul sur la souffrance, si on veut avoir le même contentement que Paul, il faut aussi qu'on ait les mêmes priorités que Paul. Lui, il a appris à se contenter, se glorifier dans sa faiblesse, puisqu'il savait ce que ça allait produire. Pour Paul, c'était important de vivre comme Dieu le veut, dans l'humilité, dans l'obéissance. Pour Paul, c'était important que les gens entendent parler de Jésus. Et pour Paul, c'était important que la gloire de Dieu soit manifestée. Et c'est puisqu'il se préoccupait tellement de ces choses-là, et puisqu'il savait que sa faiblesse faisait nécessairement partie de comment est-ce qu'on allait arriver là, qu'il a appris à s'en contenter. Et donc nous, on a besoin de demander l'aide de l'Esprit de Dieu pour être davantage préoccupés par notre marche chrétienne, par l'œuvre de l'Évangile, par la gloire de Dieu. Davantage préoccupés par ces choses-là que par notre confort, même que par nos souffrances extrêmes. Ça, c'est difficile, mais en réalité, même là, on sait que la grâce de Jésus-Christ est abondamment suffisante pour nous faire avancer. Et donc, avec ces priorités-là en tête, on ne va plus voir nos souffrances comme des accidents dans nos vies, des choses anormales, des choses qui sortent de l'ordinaire, comme si normalement la vie chrétienne c'était un long fleuve tranquille, et puis de temps en temps, il y a des petits problèmes. Alors par la grâce de Dieu, il se peut qu'il y ait des jours où tout se passe bien. Mais comme Paul, nos attentes doivent être recalibrées. La souffrance, la faiblesse, la difficulté font partie intégrante de la vie des serviteurs de l'Évangile. Et pareil, si on a ces priorités-là, on ne va jamais se dire que nos circonstances difficiles, les chardes qu'on porte, sont une raison de ne pas servir Dieu, de ne pas se soucier du sort de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ne pas se soucier de la croissance spirituelle de nos frères et sœurs dans l'Église. Quand je me sens faible, quand je ne me sens pas à la hauteur, je sais que Dieu, lui, il est toujours à la hauteur. Et c'est ça qui est important en vrai. Alors, ça ne veut pas dire qu'à l'Église, on va arrêter de servir en fonction des dons que Dieu a donnés les uns aux autres. Je peux vous dire que si c'est moi qu'on faisait chanter devant, on se dirait tout de suite que la puissance de Dieu est manifestée dans la faiblesse humaine. Mais ça veut dire qu'on se met au service les uns des autres, au service de l'Évangile, en sachant qu'on ne va jamais se sentir à la hauteur, en sachant qu'en fait, on n'est jamais à la hauteur. Il y a toutes sortes de choses qui rendent ça difficile. Moi, je ne sais pas ce que vous traversez, mais comme Paul, j'imagine que ça ne rend pas le service facile. Mais on le fait quand même. Pas puisque nous, on y arrive bien, mais puisque c'est justement par là que Dieu démontre sa puissance, la puissance de l'Évangile pour tous ceux qui croient en lui. Et enfin, pour notre Église cette année, quelle attente est-ce qu'on a alors qu'on embarque dans une nouvelle année de ministère ensemble, de service de l'Évangile ensemble, ici à Bruxelles? À quoi est-ce que ça va ressembler? Comment est-ce qu'on va se sentir quand on cherche à faire connaître Jésus dans notre entourage, à Bruxelles, en Belgique? Alors, il y aura sans doute des jours où c'est vraiment chouette, où on est assez enthousiaste, où ça se passera bien, mais plus souvent, ça sera décourageant. Peut-être que ce sera un peu la misère, on aura l'impression que ça n'avance pas vraiment. On aura mal, on souffrira peut-être. L'Église n'aura pas l'air super influente, super puissante dans le monde. On n'est pas nombreux à Bruxelles. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là, quand nous on se sent tout petit, tout faible, que Dieu est en train de réconcilier l'univers tout entier avec lui-même. C'est lui qui est grand, puissant, glorieux, pas nous. Alors nous, on doit apprendre, comme Paul, à nous soucier davantage de notre conduite chrétienne, du sort de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, de la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'on va apprendre à se contenter de notre faiblesse, individuellement et collectivement en tant qu'Église. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra faire connaître Jésus autour de nous, à Bruxelles, en Belgique. Sa grâce nous suffit, même dans la souffrance, et en fait particulièrement dans la souffrance. Prions.
Seigneur, merci pour la croix. Merci puisque ton Fils est venu vivre une vie humble, jusqu'à une mort humiliante. Mais par là, tu nous donnes ta grâce, nous qui ne méritions rien de tout ça. Merci puisque tu nous assures que ta grâce est abondamment suffisante, y compris dans les épreuves les plus dures que nous traversons. Merci, puisque de manière mystérieuse, tu choisis de travailler dans ce monde de manière inattendue, au travers de nous, faibles, fragiles, brisés. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que c'est comme ça que tu as choisi de travailler. Passionne-nous pour ton œuvre, passionne-nous pour notre obéissance à toi, passionne-nous pour le sort de ceux qui ne te connaissent pas encore, passionne-nous pour ta gloire. Nous prions à ces choses au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Alors les musiciens vont pouvoir revenir devant et quand ils sont là, on va chanter ensemble le chant non par Christ, non par moi, mais par Christ en moi. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, c'est pas nous qui le faisons. C'est pas grâce à nous, c'est grâce à Jésus-Christ en nous. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble.